Borgia. Chapitre 50, La vengeance de Lucrèce. Dans la matinée du lendemain, Ragastens fut appelé chez le prince Manfredi. Le prince avait son appartement au palais Alma. Dès qu'il fut arrivé, Ragastens fut introduit. Le comte Alma était avec Manfredi.
« Approchez, monsieur, dit celui-ci, approchez, qu'on vous félicite un peu mieux qu'on a pu le faire hier. »«
Vous nous avez sauvés, ajouta le comte Alma.
« Altesse, prince, dit Ragastens, j'ai simplement combattu en soldat. »«
Non pas, fit vivement Manfredi. Vous seul avez vu le point faible, et votre attaque a dignement terminé cette journée. » Sans vous, l'armée de César serait ce matin aux portes de la ville. »
Ragastens s'inclina.
« Nous avons pensé, reprit alors le comte Alma, à vous offrir une récompense digne de l'action d'éclat que vous avez accomplie. »
Ragastens ferma les yeux un instant et songea que la récompense suprême, c'était d'avoir été vu par Primevère sur le champ de bataille. Puis il se redressa.
« Monseigneur, dit-il, vos paroles sont une récompense suffisante. »
Mais le prince Manfredi avait fait un geste. Un valet ouvrit une grande porte à deux battants. Une trentaine de seigneurs, chefs de l'armée alliée, entrèrent alors et se rangèrent en silence derrière le comte Alma et le prince Manfredi. Ragastens regarda avec étonnement ses préparatifs. Tout à coup, le prince Manfredi fit deux pas vers lui, et il retira un magnifique collier qu'il portait, composé d'une série de médailles d'or réunies entre elles par de légères chaînettes incrustées de brillants, terminées par une sorte de rosace faite de rubis. C'était l'insigne de l'ordre des Preux, distinction suprême établie depuis des siècles par les premiers Alma. Le nombre des chevaliers de l'ordre des Preux ne devait jamais dépasser 60. Quelques princes, les doges de Venise, le duc de Ferrare, entre autres, s'enorgueillissaient de porter aux grandes cérémonies la rosace de rubis. Dans le comté, seul le prince Manfredi, le comte Alma, avait cette décoration. Le prince Manfredi, ayant retiré le collier qu'il portait autour du cou, le présenta à Ragastens.
À genoux, lui dit-il gravement.
Prince, fit Ragastens en pâlissant, une pareille distinction à moi.
À genoux, répéta doucement Manfredi. Alors Ragastens obéit. Il plia le genou. Le prince Manfredi se pencha vers lui et lui passa le collier autour du cou. Puis, tirant son épée, il le toucha du plat sur l'épaule droite en disant
« Sois brave, sois fidèle, sois pur. Dans tes pensées et dans tes actes, sois digne de l'ordre des Preux dont tu es chevalier à dater de ce jour. »
Des applaudissements éclatèrent. Ragastens, s'étant relevé, reçut l'accolade du prince Manfredi et du comte Alma et les félicitations de tous les seigneurs présents. La chose qui lui fut plus douce, peut-être, que la décoration elle-même, fut de constater dans tous les yeux qui se fixaient sur lui que pas un éclair de jalousie ne troubla l'harmonie de la cordialité qui l'entourait. Le soir de ce jour, comme la nuit était venue, le prince Manfredi se promenait dans le grand parc solitaire et silencieux, escortant la princesse Béatrix. Fidèle à l'engagement qu'il avait pris, le prince ne disait pas un mot qui pût rappeler à Béatrix qu'il était son mari.
« Ne rentrez-vous pas, mon enfant ? » demanda-t-il.
« Pas encore, prince, » répondit-elle. « Vous le savez, c'est chez moi un caprice invétéré que de rêver seul, le soir, dans ce parc ?
Si vous m'en croyez, vous rentrerez. Vos esprits sont agités par les graves événements que nous traversons, et vous avez besoin de repos.
« Non, prince, dit-elle, j'éprouve, au contraire, un réel soulagement à me promener dans ces parages que ma mère aimait, à essayer de la retrouver. Il me semble que je vais la rencontrer au détour de cette allée. »
À ce moment précis, au détour même de l'allée que Primevère désignait du doigt, une ombre se montra une seconde, puis disparut aussitôt. Ni Primevère, ni le prince ne virent cette ombre.
« Mais vous, reprit vivement la jeune princesse, vous surtout avez besoin de repos. »
Le prince soupira. Il comprit que Primevère cherchait la solitude.
« Je vous laisse donc, dit-il sans tristesse apparente.
Primevère tendit son front. Le vieillard y déposa un baiser paternel, puis se retira avec un soupir que Béatrix n'entendit pas. Le prince Manfredi, la tête penchée, se dirigea lentement vers le palais, en passant par les allées qu'il venait de suivre avec Béatrix. Tout à coup, une voix murmura à son oreille railleusement « Bonjour, prince Manfredi !» Et d'un fourré, il vit sortir une femme masquée.
« Qui êtes-vous ? Fit le prince. « Que faites-vous ici à pareille heure ?»«
Je vous cherchais, prince. Qu'importe qui je suis. Vous ne voyez pas mon visage, mais vous allez connaître ma pensée. »
L'ombre éclata de rire. Le prince Manfredi avait pâli. Le persiflage de la femme masquée lui semblait cacher d'effroyables avertissements.
« Qui êtes-vous ? Parlez ou je vous arrache votre masque. »
« Prince, dit alors la femme avec une soudaine gravité, vous ne saurez pas mon nom, parce qu'il est inutile que vous le sachiez. Vous ne verrez pas mon visage, parce qu'il est impossible qu'un Manfredi violente une femme. »
« Par le ciel, gronda sourdement le prince. Parlez, que voulez-vous me dire ?
Je n'ai rien à vous dire, fit tranquillement l'ombre. « Vous ne me croiriez pas. Mais j'ai mieux à faire que de parler. Venez, prince, et vous verrez vous-même sa trahison. Vous entendrez le traître. »
Le prince passa ses mains sur son front moite de sueur. Il suivit la femme, qui s'enfonçait par de nombreux détours dans le méandre des allées du parc. Tout à coup, elle s'arrêta. Ils étaient sous le couvert d'un épais fourré. Devant eux, par-delà une bande de gazon qu'éclairait la lune, une femme était assise sur un banc, et, à genoux devant elle, un homme couvrait sa main de baisers. Manfredi les reconnut sur le champ. C'était Primevère, princesse Manfredi. C'était le chevalier de Ragastens. La dame masquée les lui montra en étendant le bras vers eux, puis, comme si elle n'eût plus rien à faire, doucement, elle se recula et disparut sans bruit, laissant Manfredi hagard, frappé d'une immense stupeur. Le valet que Lucrèce avait gagné à prix d'or était à son poste, et comme il demandait s'il faudrait l'attendre encore le lendemain soir, cette fois, elle répondit « Non. » Maintenant, c'est fini. Par les rues noires de Monteforte, elle gagna une maison de pauvre apparence qui se trouvait située non loin de la grande porte par où le comte Alma et Ragastens avaient fait leur entrée. Elle entra, monta au premier étage et pénétra dans une pièce qu'éclairait un seul flambeau. Un homme était là, qui attendait. Il était vêtu en cavalier.
« Garcogno, lui dit Lucrèce. « Je vais rentrer au camp. »«
Et moi, madame ?»«
Toi, tu restes, pour le surveiller. »«
Attache-toi à lui, qu'il ne fasse plus un pas maintenant dont tu ne puisses me rendre compte. »«
Bien, madame, vous pouvez vous fier à moi,
« Je le sais, Gargogno, » dit Lucrèce, avec un sourire de satisfaction. « Tu es un serviteur sûr, parce que tu travailles pour ton propre compte. Seulement, prends garde. Si cet homme te voit, tu es perdu. »
Le lendemain matin, au moment où s'ouvrait la porte, Lucrèce monta à cheval et, la figure à demi cachée par une écharpe légère, se présenta pour franchir cette porte. L'officier de garde, voyant une femme seule, ne fit aucune objection pour la laisser sortir. Elle partit au galop. 3 heures plus tard, elle déboucha du défilé d'enfer et, évitant le camp des alliés par un long détour, elle mit pied à terre vers midi devant la tente de César, où elle entra aussitôt. César, allongé sur un petit lit de sangle, causait avec 2 ou 3 de ses principaux lieutenants. Sa blessure, bien que peu dangereuse, le faisait cruellement souffrir.
« Comment ? » s'écria Lucrèce en entrant. « Blessé ? Ma sœur ! » s'exclama César.
Elle fit un signe imperceptible que comprit César. Celui-ci renvoya aussitôt les conseillers qui l'entouraient.
« Oui, blessé, » dit-il alors, « blessé par ce damné Ragastens qui fait tout crouler autour de nous depuis que nous avons eu le malheur de le rencontrer. Mais toi, d'où viens-tu ? »
« Je viens de Monteforte, » répondit tranquillement Lucrèce.
« De Monteforte ? » s'écria César.
La tranquille audace de Lucrèce stupéfiait César.
« C'est magnifique ce que tu as fait là !» s'écria-t-il.
« D'autant plus que cela va te permettre de te venger. » César eut une exclamation de joie furieuse et voulut faire un mouvement pour se soulever. Mais la douleur lui arracha un cri et il retomba haletant.
« Explique-toi, » dit-il en se remettant. « Si ce que tu dis est vrai, Lucrèce, si tu as trouvé le moyen de mettre cet homme en mon pouvoir, tu peux compter sur ma reconnaissance. »
« Nous verrons cela plus tard, » dit Lucrèce avec un sourire. « Pour le moment, réponds à mes questions. Tiens-tu absolument à t'emparer de Monteforte ?»«
Si j'y tiens, tu deviens folle.
Ainsi, tu te refuserais à renoncer à marcher sur la ville ?»«
Certes, par l'enfer, je la raserais, comme je l'ai dit à mon père. » Et je sèmerai moi-même du blé sur l'emplacement de ces remparts.
Et puis, tu as une autre raison. Avoue-le.
Oui, je sais ce que tu veux dire. Eh bien, c'est vrai, je veux que la fille des Alma soit à moi.
En ce cas, il faut te hâter. Ragastin, c'est dans la place. Et Béatrix ne le voit pas d'un mauvais œil.
César devint blême. Puis, après une minute de réflexion, « Et tu dis que, pour avoir Ragastin sans mon pouvoir, il me faudrait renoncer à détruire Monteforte ?»«
Ou feindre d'y renoncer ?»«
Ah, je crois que nous allons nous entendre. »
Lucrèce alors se pencha vers son frère et lui parla longuement à voix basse. Enfin, l'entretien prit fin. Alors, César appela l'officier qui se tenait en permanence devant la porte de sa tente.
« Monsieur, lui dit-il, envoyez-moi mon maître de camp et mes héros d'armes. »«
Bien, monseigneur. » Une demi-heure plus tard, le bruit se répandait dans tout le camp que César allait envoyer à Monteforte des parlementaires chargés de lui faire des propositions avantageuses. Quelques-uns approuvèrent la démarche, d'autres en plus grand nombre, la jugèrent honteuse et murmurèrent que, décidément, César Borgia baissait. Nul ne soupçonna la vérité.